Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h22, on ouvre notre débat du Club des idées sur Europe 1 autour de cette question. Peut-on faire confiance aux avis sur Internet? Certains d'entre vous sont sans doute en vacances en ce moment. Alors comment l'avez-vous choisi, votre chambre d'hôte à la campagne ou votre chalet à la montagne? Nous sommes de plus en plus nombreux à étudier avec attention les commentaires des précédents clients afin de nous assurer que nous faisons le bon choix. Et il en va des locations de vacances comme des hôtels, des restaurants, quand ils pourront rouvrir, et de beaucoup d'autres choses. Hein. Pratiquement tout ce qui s'achète est sujet à commentaires sur Internet, les livres, les aspirateurs. On note aussi les kinés, les médecins, les hôpitaux, les auto-écoles, les esthéticiennes. Les avis des consommateurs sont devenus incontournables, mais c'est le revers de la médaille face à ce succès. De nombreuses fraudes se sont développées. Alors comment démêler le vrai du faux? On en parle avec mes invités. Avec à mes côtés ce soir Jean-David Lépineux, fondateur d'Opinion System. C'est une entreprise qui s'occupe d'authentifier justement ces avis, notamment chez les professionnels de l'immobilier et les auto-écoles. Bonsoir.
Bonsoir.
Virginie Pez, spécialiste du comportement du consommateur, maître de conférences à l'Université Paris de Assas. Bonsoir.
Bonsoir.
Olivier Guéraud, également juriste à l'association de consommateurs CLCV. Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous sommes en ligne avec Ambre Frantzen, qui est directrice associée de l'agence eSmart, spécialisée dans l'e-réputation. Et social media manager. Bonsoir à tous les quatre.
Alors, bonsoir.
70% des internautes consultent les avis de consommateurs avant de faire un achat. On parle donc d'un sujet très, très concernant, sachant qu'avec la crise actuelle, nous sommes de plus en plus nombreux à acheter sur Internet. Je voudrais d'abord qu'on revienne peut-être sur l'origine de ces évaluations de consommateurs. Ça remonte à quand, Olivier Guéraud? Au tout début d'Internet?
Je pense que c'est quelque chose qui s'est particulièrement développé ces dernières années parce que ça donne une véritable valeur ajoutée au site. Sur Internet, le consommateur, il ne peut pas par définition toucher le produit, évaluer rien. Donc si vous voulez l'orienter davantage sur la vente en ligne plutôt qu'en réel, il faut lui donner le sentiment qu'il a plein d'évaluations fiables. Donc les avis de consommateurs, ça existe depuis longtemps. Je pense que ça se développe depuis quelques années seulement.
C'est ça qui en fait a remplacé le bouche à oreille autrefois. C'est le voisin qui vous disait « j'ai trouvé un bon resto, j'ai acheté un bon aspirateur », etc. Alors aujourd'hui, selon une étude Médiamétrie Orange, 96% des internautes prêtent attention aux notes et aux avis et 89% les jugent utiles pour voire indispensables dans leur processus d'achat. C'est le cas notamment de Yasser.
Quand je regarde des notes, j'ai l'impression d'avoir l'avis de personnes qui sont comme moi. Et donc je leur fais plus confiance que ce que dirait l'entreprise quand elles vendent leurs produits. Entre 4 et 5 étoiles, j'ai confiance en le restaurant ou le produit. Je mets des avis d'ailleurs quand je vais au restaurant après. C'est juste de la gentillesse envers les autres internautes, de les empêcher de commettre une erreur.
Mettre un commentaire, c'est empêcher les autres consommateurs de commettre une erreur. Nous dit Yasser, effectivement, hein, Virginie Pez, vu comme ça, c'est le bon côté des avis. Hein.
Voilà, exactement, c'est le bon côté des avis. Disons que le consommateur, en tout cas, va beaucoup plus faire confiance à des avis qui vont être postés par les autres consommateurs que par les descriptions que vont fournir les marques sur les sites Internet. Donc forcément, effectivement, ce sont des avis qui sont plus crédibles et qui vont inspirer confiance pour les consommateurs.
Alors, il y a quand même des consommateurs qui sont imperméables à ces commentaires, voire méfiants. Écoutez Marie au micro de Zoé Pallier.
Moi, je regarde pas. Je ne sais pas qui a mis les étoiles. Ça me semble assez subjectif. Je préfère des choses qui me semblent être plus des faits. Donc, je vais regarder la fiche technique. Puis, on ne sait pas qui les a mis. Est-ce que c'est pas le copain du marchand? Je préfère aller demander à quelqu'un que je connais qu'est-ce qu'elle en pense et pourquoi. Parce que là, on va vraiment avoir le temps d'échanger de façon plus complète à mon goût.
Jean-David Lépineux, est-ce que Marie, elle est représentative? On n'a pas toujours le temps de mener sa propre enquête, hein, comme elle. Hein.
Non, on n'a pas le temps de mener sa propre enquête. Aujourd'hui, monsieur l'a bien dit tout à l'heure.
Olivier Guéraud, oui.
Voilà, il a bien dit une chose qui était intéressante, c'est sur la partie des avis clients qui ont évolué. Aujourd'hui, dans un témoignage, on a entendu juste avant qu'entre 4 et 5 étoiles, on fait confiance.
Oui.
Voilà. En fait, les avis clients ont démarré, eux, il y a à peu près à la sortie de Booking. Ils étaient là avant, aux alentours de 2008. Et en fait, ils se sont propagés aujourd'hui. Et donc, en fait, les personnes entre 4 et 5 étoiles donnent un avis. Mais surtout, maintenant, c'est ce que disait la dernière consommatrice, elle n'y fait pas attention ou elle n'y fait pas confiance parce que fut un temps, dans les années 2015, les entreprises tentaient de n'avoir que de l'avis positif. Et donc, que de l'avis positif, c'est vite rentrer dans des travers marketing. Et rentrant dans des travers marketing, eh bien, ça faisait un peu fake. et faux.
Ça, c'était à l'époque où c'était moins contrôlé. Mais on va y revenir, il y a des contrôles aujourd'hui qui sont mis en place. 93% des internautes renoncent à un achat après avoir lu un seul avis négatif. C'est énorme comme chiffre, Virginie Pazin.
Oui, c'est absolument énorme. Et en fait, on se rend compte que finalement, la consultation de ces avis, aujourd'hui, ça fait partie d'une étape essentielle dans le parcours du client. C'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, il va regarder finalement les avis avant de faire son choix et puis il peut renoncer très facilement en fonction de la nature de l'avis.
Alors, est-ce que il existe une norme, on va en parler justement, une norme française qui permet d'encadrer les sites d'avis de consommateurs, sachant qu'il y a aussi une directive européenne. Comment la DGCCRF, c'est-à-dire la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, de la Répression des Fraudes, procède-t-elle pour contrôler ces avis, pour dénicher les frauduleux? Marie-Baptiste Duard a posé la question à Romain Roussel, il est directeur de cabinet de la DGCCRF.
Nous vérifions la loyauté et le caractère non trompeur de ces avis à partir d'enquêteurs spécialisés. Ils contrôlent les pratiques, mais aussi au-delà de cela, toutes les techniques mises en œuvre par les professionnels et qui lui permettent de se présenter faussement comme un consommateur. Que ce soit des notes indiquées, le nombre de fans qui suivent tel ou tel produit, des followers, des likes sur Facebook. Et sur les signalements également que nous pouvons recevoir de la part des consommateurs à travers la plateforme Signal Conso et à travers les professionnels aussi eux-mêmes qui parfois nous font part d'avis qui dénigrent leur société.
Je vous demande une réaction rapide parce qu'on va y revenir dans un tout petit instant. Ces contrôles actuels mis en place par la DGCCRF sont-ils suffisants d'après vous ? Jean-David Lépineux ?
Oui. Alors, en fait, les contrôles d'avis, est-ce qu'ils sont suffisants? J'ai envie de vous dire oui et non. Ils sont, par rapport à la DGCRF, ils sont essentiellement faits aujourd'hui sur de la délation. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, c'est des dénonciations qui sont faites, c'est des courriers où ils croulent sous les demandes pour venir contrôler. Et ils n'ont pas le temps de faire des contrôles inopinés et aléatoires, comme monsieur du cabinet indique.
D'accord, mais écoutez, c'est très intéressant. On va donc poursuivre ce débat dans un tout petit instant parce qu'on a encore plein de choses à se dire. On aura aussi des témoignages, notamment un restaurateur qui a réagi avec humour, vous le verrez, après qu'un consommateur lui ait dit que son gratin dauphinois était congelé. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h30, on poursuit notre débat du Club des idées d'Europe 1. On s'intéresse ce soir aux avis des internautes. Internet qui offre une liberté d'expression qui modifie totalement de nos jours le rapport de force entre le client et la marque. Alors, menace ou opportunité, on continue d'en parler avec mes invités. Jean-David Lépineux, fondateur d'Opinion System. Virginie Pez, spécialiste du comportement du consommateur. Olivier Guéraud, juriste à l'association de consommateurs CLCV. Et Ambre Franzen, directrice associée de l'agence e-Smart qui est spécialisée dans l'e-réputation. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des normes qui ont été mises en place aujourd'hui. Mais comment être sûr, malgré tout, malgré ces normes, que les avis que l'on lit aujourd'hui, en 2021, sur Internet, sont fiables et qu'ils proviennent bien de vrais consommateurs, Olivier Guéraud ?
Ben écoutez, moi, je pense qu'on ne peut jamais en être totalement sûr. On a entendu parler de trucs, utilisation de majuscules, courbes. Statistiquement, des solutions, il y en a certainement. Mais moins vous avez d'avis en volumétrie et moins vous pouvez être sûr de leur fiabilité d'une manière globale. Il est très important de ne pas se contenter de ça. Vous avez d'abord le descriptif du produit. Comme votre auditrice le disait, le choix, c'est ça. Et puis peut-être multiplier les sources d'informations sur ce produit. Sur Internet, c'est facile. Oui, vous ouvrez d'autres pages pour pouvoir aller le chercher à un autre endroit.
Et là, on peut déceler peut-être une petite faille et se dire que c'est pas si bien que...
croiser les informations. Quoi.
Mais on disait autrefois qu'il existait des sociétés spécialisées, moyennant finance, dans l'art et la manière de rédiger de faux avis, de créer de fausses identités. C'est toujours le cas, Jean-David Lépineux ?
Oui, malheureusement, c'est toujours le cas. Mais on les repère. Maintenant, on les repère. Quand je dis on les repère, il suffit que vous alliez sur un site, ces robots, on pourrait habitude, en fait, quand vous les commandez, de vous livrer les avis par bloc.
Ouais.
Donc, si vous regardez les avis sur les 6 derniers mois...
C'est-à-dire, expliquez-nous...
Par bloc, ce que j'appelle par bloc, c'est que quand ils vous les livrent, vous allez commander en fait, de faux avis, et ils vont vous les livrer par trentaine ou quarantaine, mais dans le même mois. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils vont vous faire ça en une espèce d'une semaine. Ça va aller très, très vite. Ils vont vous les rédiger très, très vite. Donc, une des premières astuces pour savoir si un site est vrai ou s'il fait des faux avis, remontez sur ces 6 derniers mois. Et regardez si tous les mois, pendant une période de 15 jours, vous voyez une quarantaine d'avis qui ont été déposés. Si vous voyez une quarantaine d'avis qui ont été déposés, c'est fait par des robots. Voilà, ça, c'est la première chose à savoir. Et ensuite, une deuxième astuce que je peux donner aux auditeurs, qui est très, très facile. Si vous êtes face à un choix qui nécessite impérativement de l'avis client, parce qu'on peut être face à des choix anxiogènes qui nécessitent impérativement d'avoir un retour client. Si vous voulez être sûr de la fiabilité de ce site, il n'y a pas 50 solutions. Tentez de déposer vous-même un avis. Si dans les 48 heures, il est validé, vous avez la réponse sur la fiabilité du site.
Mais je pensais que pour pouvoir déposer un avis soi-même, il faut avoir soit une preuve d'achat. On a été dans cet hôtel, donc on a le droit de commenter si la vue de la chambre est belle, ou on a acheté ce robot mixeur et on a le droit de dire qu'il est puissant ou pas.
Alors oui, mais pas tous. C'est certains sites. Alors par exemple, si on prend le site de Booking, lui, vous pouvez poser une évaluation qu'après consommation. Oui. D'accord, c'est le cas d'Amazon, c'est le cas de Cdiscount et d'autres sites comme ça. Mais il y a d'autres sites de consommateurs en ligne, ce qui était l'exemple et tous les grands débats de TripAdvisor. TripAdvisor, vous pouvez déposer un avis sur TripAdvisor quand vous le souhaitez, sans avoir fait de voyage. Et c'est le cas de tous les avis Google que vous voyez aujourd'hui. Toute personne qui détient un compte Google peut déposer un avis sur le Google My Business de l'entreprise sans qu'aucun contrôle de ceci soit fait.
On risque rien.
Il n'y a aucun risque.
Peut-être que je peux vous poser la question, Olivier Guéraud. Le consommateur ne risque rien et le commerçant qui serait pris en flagrant délit de faux avis, lui, il risque quoi ?
Alors, il faut attraper le commerçant, il faut pouvoir rapporter la preuve, mais le fait pour un professionnel de se présenter faussement comme étant un consommateur, c'est une pratique commerciale trompeuse, ça c'est sûr. Maintenant, il faut appréhender la personne, il faut rapporter la preuve de tout ça. De mon point de vue, ça reste quand même assez théorique dans bien des cas.
Bon, je voudrais qu'on prenne en ligne un restaurateur qui, comme beaucoup, a été confronté à des avis plus ou moins agréables de la part de ses clients. Bonsoir Sébastien Balporès.
Bonsoir, enchanté.
Enchanté, voilà. Vous êtes en ligne de Biarritz, vous avez eu plusieurs établissements, vous en avez eu un à Anglette, un autre à Paris qui s'appelait la Peña Festair, c'est ça ?
Peña Festair, exactement.
Vous allez nous parler de votre expérience avec votre bel accent, mais je voudrais d'abord qu'on passe un extrait d'une petite vidéo que vous avez réalisée il y a 3 ans pour répondre justement à un client qui sur TripAdvisor avait laissé entendre que chez vous, le gratin dauphinois était surgelé. Vous avez posté 7 vidéos pour lui répondre.
Je vais prendre un exemple personnel qui m'a touché. Une personne sur un site TripAdvisor, après avoir bien démonté mon établissement, s'est permis d'écrire que l'on servait un gratin de pommes de terre en boîte. Nous nous trouvons dans la cuisine de la Peña Festair. Alors, cher ami internaute qui se reconnaîtra, étant donné que tu ne sais pas faire la distinction entre un gratin de pommes de terre en boîte et un gratin de pommes de terre maison, je te mets au défi de venir peler les 300 kg de pommes de terre que l'on reçoit toutes les semaines.
Alors, on sourit sous nos masques, on n'est pas à la radio. Enfin, on est à la radio, on n'a pas l'image, je voulais dire, mais on vous voit effectivement avec des kilos de patates à côté de vous. Voilà. Vous auriez pu simplement être vexé par ce commentaire. Vous avez choisi de lui répondre avec humour. Cette vidéo, elle a été vue par plus d'1,5 million de personnes quand même. Hein.
1,5 million de personnes. Ça a été le premier coup de gueule contre les sites TripAdvisor et tout ce genre de sites. Vexé, en toute franchise, je vous réponds, on est tous vexés. Dans la profession, quand on discute entre nous, on est tous vexés parce qu'on passe des heures dans notre outil de travail, on y met beaucoup le cœur. Et quand vous voyez des avis qui débarquent comme ça avec des gens qui n'ont pas forcément les compétences pour parler, qui mettent entre guillemets un peu n'importe quoi et à la finalité, c'est une horreur, puisqu'ils se permettent, ces gens-là, de dire qu'on fait des horreurs. Ça fait très très mal, voilà. Alors après, moi, j'ai décidé de répondre à cette jeune fille avec de l'humour, avec beaucoup d'humour, parce que la Peña Festair est un lieu que j'ai tenu pendant 13 ans à Paris, assez rock'n'roll, très sud-ouest, très fêtard, et avec beaucoup d'humour. Donc j'ai décidé de lui répondre comme ça tellement la chose me paraissait énorme. Voilà, donc j'ai pris l'humour.
Vous restez avec nous, évidemment, Sébastien Balporès, on vous retrouve dans un instant. Virginie Pesse, il a eu raison de réagir comme ça, ce restaurateur ? C'est la bonne tactique ?
Oui, exactement. Il faut en fait que la marque se saisisse de l'opportunité d'un avis négatif pour répondre en fait. Hein. L'erreur qui pourrait être faite, c'est justement d'ignorer ces avis négatifs. Il faut les voir comme des opportunités de pouvoir montrer en fait justement qu'on est digne de confiance et qu'on est crédible et peut-être même de se nourrir de ces avis pour essayer de s'améliorer.
Oui, parce que ce restaurateur, il nous parlait beaucoup du côté humain, mais il y a aussi la réputation de son entreprise, et ça c'est quelque chose qui tient évidemment à cœur. Anne Franssen, je rappelle que vous êtes directrice associée de l'agence eSmart, vous êtes spécialisée dans l'e-réputation. Aujourd'hui, c'est devenu primordial, hein, notamment pour les sites de vente en ligne, hein, la réputation sur Internet.
Oui, parce que c'est la première porte d'entrée, en fait. Et c'est ça aussi que les commerçants, peut-être, ont tendance à oublier, parce qu'ils se disent « Ah bah tiens, je vais travailler ma réputation sur un écosystème très très large, un site web, des réseaux sociaux, peut-être des messageries, etc. » Et en fait, il y a des réseaux sociaux sur lesquels les gens ne sont pas et sur lesquels on parle d'eux. Et ne pas être sur les réseaux sociaux ou faire parfois un choix arbitraire des plateformes, c'est laisser les autres parler à sa place, en fait, et ne pas prendre l'opportunité de répondre à des mensonges, hein, comme on l'a vu avec le restaurateur, où effectivement la réponse était excellente, mais aussi de voir que la critique négative peut être une opportunité, parce que la critique négative, surtout quand elle vient parfois en masse, sur des plateformes très libres, des agora publics, hein, comme Twitter par exemple, c'est souvent révélateur d'un dysfonctionnement, en fait, et même ponctuel. Ça peut être, par exemple, pour un site e-commerce, des problèmes de livraison. Là, avec la crise sanitaire, évidemment, ça fait un an que, après la crise abondo, mais on se retrouve avec des prolongements de livraison, etc., de délai de livraison. Et donc, je pense que ce qui va jouer, c'est vraiment la relation qu'on va tisser avec sa communauté, c'est la manière avec laquelle on va lui parler. Ne pas considérer la communauté comme une masse de commentaires négatifs, en fait.
Mais individuellement, oui.
Voilà, mais de personnaliser la relation avec... une tonalité particulière, avec une approche particulière, des angles particuliers. Alors, ça passe par de la modération, hein, il n'y a pas de secret.
C'est un job à plein temps, c'est un job à plein temps, ce que vous nous dites, là, quasiment.
Ah, mais je ne vous le cache pas, oui.
Donc, il faudrait que quasiment chaque entreprise ait un community manager qui surveille tous les réseaux sociaux.
Non, parce que la volumétrie, après, est différente selon les marques, évidemment. Mais je pense, par exemple, à une marque comme la SNCF, qui a, quand tout va bien, 5000 mentions par jour sur Twitter. Évidemment, la modération n'est plus totalement humaine. Hein. En revanche, on se retrouve sur... des pages Facebook avec des volumétries de marques, hein, de grosses marques, avec des volumétries qui vont à centaines de commentaires par jour. Là, humainement, c'est possible à modérer.
Oui, ça c'est possible surtout pour les petites entreprises. Je voudrais qu'on vous retrouve, Sébastien Balporès. Vous lisez, vous, généralement, tous les avis sur Internet ?
Alors, sincèrement, moi, j'ai pris la politique de ne pas les lire. Voilà. Aujourd'hui, j'ai ouvert une sidrerie à Biarritz, que j'ai ouvert en juillet. J'ai pris ce parti. Maintenant, je vais vous dire, dans votre environnement, vous ne pouvez pas y échapper, parce qu'après, vous avez toujours un employé, un ami qui vous dit « Ah, t'as vu, là, t'as eu un mauvais ami ». Donc, en fait, il y a toujours quelqu'un qui vous le rappelle. Et moi, je n'aime pas trop m'attacher à ces choses-là. Quand on fait des erreurs, c'est bien de le savoir. C'est bien de les travailler.
Oui, maintenant, parce que ça peut être intéressant de savoir que bah, ce jour-là, la serveuse, elle n'était pas très bien lunée et qu'elle nous a mal servi ou que effectivement la côte de bœuf, elle était un peu trop cuite. Ça peut aussi faire progresser ce genre d'avis.
Alors, si on fait bien notre travail, je pense que 80% des erreurs, on doit s'en apercevoir quand on est sur le terrain. Après, c'est vrai qu'on discute avec les gens, on peut s'apercevoir par ailleurs, c'est vrai, sur les sites internet d'autres erreurs. Moi, ce que je reproche à ces sites-là, c'est aussi que parfois, ils ne valident pas à la fois, est-ce que déjà, un, les gens sont venus chez nous, parce que ça arrive. Deux, on ne valide pas la compétence des gens qui sont permis de vous juger. Il y a des gens, ils font un seul commentaire. Ça serait bien que TripAdvisor, par exemple, nomme des gens qui sont experts, c'est-à-dire qu'au bout de 10 commentaires, on a le droit de publier peut-être ses avis pour être quelqu'un d'expert. Voilà. Aujourd'hui, on se fait juger par tout le monde, et n'importe qui, et avec le bagage de connaissances qu'ils ont de la cuisine, d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est très, très difficile à accepter, parfois.
Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-David Lépineux, de ce que dit ce restaurateur ? Il faudrait qu'il y ait des experts, en fait, uniquement des experts qui auraient le droit de juger, n'importe qui.
Oui, on voit bien qu'il est dans le monde de la restauration, et ils ont l'habitude, dans le monde de la restauration, en fait, de se juger entre professionnels. Alors là, c'est très subjectif. Là, on parle de consommateurs. Alors, ce qui veut dire, c'est que c'est peut-être le rôle de la société Opinion System, c'est effectivement de contrôler les avis pour en avoir des fiables. Donc en fait, l'expert est inversé. Ce monsieur voudrait être jugé, et je le conçois, hein, par des experts, parce qu'en fait, il fait des plats, c'est artistique ce qu'il fait, et donc ça peut en fait s'évaluer de façon artistique, mais dans la vie de tous les jours, ce qu'il faudrait qu'il puisse avoir, ce sont des avis qui soient contrôlés, parce que c'est ça qu'il explique. Voilà, il explique que globalement, n'importe qui peut venir mettre un avis. À partir du moment où sur TripAdvisor vous avez déposé 10 avis, vous êtes expert. En fait, vous n'êtes pas expert de ce qu'il fait, vous êtes expert en dépôt d'avis. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Et si les restaurateurs avaient effectivement des filtres de gens qui ont effectivement consommé réellement chez eux, après le retour, vous savez, sur de la restauration, il est très subjectif. Hein.
On ne peut pas plaire à tout le monde,
voilà,
forcément.
Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Par contre, là où je ne partage pas ce qu'il dit, c'est qu'il devrait porter, porter de l'intérêt aux avis qu'il a et y répondre. Et y répondre de façon systématique, même si les avis sont négatifs. Aujourd'hui, un avis négatif ne vient pas détruire une réputation, mais il est capital d'y répondre. Et au contraire, y répondre, ça démultiplie votre notoriété.
Et ça crédibilise, voilà. Oui, c'est ce que vous nous confirmez, Ambre Franzen, hein, quand
on voit un commentaire
où on nous dit « oui, on a bien entendu vos commentaires, on va les prendre en compte », c'est important ça pour l'image aussi.
Mais oui, parce que en fait, il y a deux choses à prendre en compte. Sur les réseaux sociaux, on est souvent confronté à un équilibre instable entre les arguments rationnels et l'émotion. Et quand on donne un avis, on va légitimer quand même un petit peu avec un petit peu d'arguments rationnels, hein, quand même, mais on est surtout dans l'émotion. Et le problème, c'est que quand on veut répondre, on a tendance à donner des preuves, des chiffres, à être dans une réponse technique. Or, il y a quelques années, la réponse technique pouvait suffire. Aujourd'hui, les arguments rationnels n'ont d'audience que si la phase émotionnelle, en fait, est gérée. Donc déjà, il faut, dégonfler un petit peu la crise potentielle, je dirais, ou les levées de boucliers. Il faut les dégonfler un petit peu pour rester, en fait, sur l'aspect plus rationnel, l'aspect plus, je dirais... plus factuel en fait. Et là, la réponse même en cas de commentaire négatif a plus d'impact.
Ouais. Vous seriez prêt à le faire, Sébastien Valporès, à privilégier justement ce côté humain et ne plus être trop dans la réactivité? Vous êtes blessé parce qu'on vous fait un commentaire qui vous a déplu?
Alors déjà, c'est ce que j'ai fait.
Oui, hein, avec votre vidéo, évidemment. Voilà. Non, mais là, aujourd'hui, vous dites c'est fini, je ne regarde plus les avis.
Je suis d'accord avec elle puisque je l'ai fait. Oui. Voilà. Donc, j'essaye effectivement de répondre. Je vous avoue qu'il y a des fois, on n'a pas forcément la bonne idée. Il faut faire attention, on peut être vite énervé et aigri. Et je pense qu'il ne faut pas que ce soit ça qui ressort dans une réponse. Donc, quand on est, j'ai la parade, j'ai la réponse, je le fais. Il y a des gens, et c'est ce que je veux dire à cette personne, il y a des fois des gens, on se demande s'ils sont venus chez nous, sincèrement aussi. Donc, c'est pour ça que je dis, à un moment donné, ça serait bien de scanner.
Parfois, ils ne sont peut-être pas venus, hein, c'est possible aussi.
De prendre en photo la preuve. Oui, parce qu'il y a de tout qui traîne là-dedans. Vous avez des jaloux, vous avez des concurrents, des confrères, mais vous avez un peu de tout aussi. Donc, il faut imaginer tout ça. Et moi, je trouve personnellement que des fois, c'est difficile de répondre. Alors, heureusement, on n'en a pas des centaines par jour, comme j'entendais, mais de temps en temps, ce n'est pas tout le temps évident de répondre. Voilà.
On essaie, bien sûr.
C'est ce qui se dit. En tout cas, on entend tout le temps quand on lit sur comment il faut réagir. On nous dit qu'il faut répondre. Oui, c'est vrai. Bon, on essaye de le faire. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Sébastien Valporès. Merci de nous avoir appelé en direct de Biarritz, où vous tenez donc la cidrerie Cambar, c'est ça, hein?
C'est ça, exactement.
Merci à vous et très bonne soirée. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur effectivement cette notion de commentaire. Virginie Pesse, vous êtes spécialiste du comportement du consommateur. Ça rassure, hein, de voir quelqu'un qui dit « oui, ok, votre machine à café ne fait pas du café assez chaud, on a bien pris en compte, on veillera à ce que ça ne soit plus le cas ». Enfin, je ne sais pas, des choses comme ça.
Oui, le fait de répondre en fait à des avis, c'est aussi l'occasion de tisser un lien plus fort avec les clients quelque part. Parce que la marque va prendre en compte l'avis négatif, va essayer de les conseiller au mieux, peut-être même pour les aider à mieux utiliser leurs produits. Je pense par exemple à la marque Decathlon. Decathlon, en fait, systématiquement, ils répondent aux avis qui sont laissés en ligne, et notamment les avis négatifs, peut-être pour conseiller aussi un produit qui serait plus adapté aux besoins du consommateur. Et donc là, finalement, le consommateur qui n'était pas content d'avoir son produit, on lui propose de revenir en magasin et d'échanger son produit contre un produit qui serait plus adapté. Et finalement, il est peut-être encore plus content, ce consommateur, que lorsqu'il a acheté son premier produit.
Alors là, on parle beaucoup de produits ou de restaurants, d'hôtels, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit aussi fleurir beaucoup de commentaires sur des médecins, des masseurs, des kinésithérapeutes, des salons de coiffure. Ça, on a l'impression que ça prend aussi de plus en plus d'ampleur. Et d'ailleurs, les médecins peut-être pas, mais les coiffeurs, les salons de coiffure, ils sont eux aussi maintenant sur les réseaux sociaux pour tenter de communiquer, de rebondir, Olivier Guéroin.
Ah oui, je vous confirme. Moi, je vous confirme que j'ai mon chirurgien qui m'a demandé de lui mettre un avis sur Internet, ce qui m'a énormément surpris. Et voilà, effectivement, pour exister par rapport à la concurrence qui est là.
Mais c'est un bon chirurgien, ça ne veut pas dire que
c'était
bon,
un mauvais chirurgien. Il est bon. Mais pour pouvoir exister par rapport à la concurrence, il faut impérativement le faire. Mais je voudrais juste réagir sur une chose qui a été dit. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'un professionnel, dans la mesure du possible, il faut qu'il réponde. Mais d'un autre côté, moi, il m'arrive de conseiller de temps en temps à des consommateurs d'être assez modéré dans l'avis qu'ils déposent. Franchement, ce n'est pas parce que le professionnel a mis 15 jours de plus à vous livrer qu'il faut le traiter de tous les noms sur un avis. Oui. C'est une diffusion publique et c'est punissable si vous portez atteinte à sa réputation. Un avis, ça doit être modéré.
Par exemple, les injures, les commentaires vraiment limites, c'est punissable comme aujourd'hui les propos déplacés sur Twitter, par exemple.
Bien sûr, ce sont des propos que vous tenez en public contre une personne identifiée. Traiter quelqu'un trop facilement d'escroc, c'est punissable. Cette personne peut tout à fait vous amener.
Et c'est vraiment puni. Honnêtement, il y a des amendes.
Ah, ça peut être puni. Vous avez des professionnels qui font effectivement des recours contre des avis qui ont été déposés. On a eu un restaurateur en ligne. Vous avez des tribunaux qui ont jugé un avis de consommateur qui a été mis sur un restaurant qui n'avait pas encore ouvert.
Oui, c'est ça.
Voilà, là, on est face à
J'ai vu cette histoire incroyable. Un journaliste anglais qui a réussi à piéger, justement, je crois que c'est le TripAdvisor, en 2017. Il a créé un faux restaurant à Londres. Il a demandé à ses amis de publier des avis, des commentaires élogieux, des fausses recommandations. Et attendez bien, 6 mois plus tard, ce restaurant était numéro 1 dans la capitale britannique, alors qu'il n'existait tout simplement pas. C'est hallucinant, cette histoire, hein, Virginie Pez.
Ah oui, là, c'est vraiment l'effet pervers, quelque part, du système. Donc... oui, c'est assez dingue.
Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, vous, mais moi, quand je suis contente d'un endroit, souvent, je ne pense pas forcément à laisser un message. Hein. En revanche, si la viande était grillée, si le serveur a été mal aimable, si j'ai trouvé l'addition trop salée, ben là, je vais sans doute prendre mon clavier et écrire un message. Hein.
Oui, en fait, le consommateur a beaucoup plus tendance à se plaindre qu'à donner des avis positifs. Donc, c'est vrai que les avis sont souvent beaucoup plus négatifs que élogieux. Ouais. Donc ça, c'est une tendance qui est connue.
Donc, il faut aussi faire attention et prendre en compte ce paramètre-là. Dernière question, un produit de qualité a-t-il vraiment besoin aujourd'hui de ces avis Internet ?
En fait, besoin d'un avis Internet. J'ai envie de vous dire, tout dépend de l'ampleur, tout dépend de l'ampleur et de l'achat. Très souvent, en fait, plus l'achat est anxiogène pour le particulier, plus l'avis aura de l'importance. Aujourd'hui, acheter une fourchette en argent, il y a des avis, c'est très bien, mais ça ne va pas franchement changer la donne du consommateur. Donc, c'est la raison pour laquelle il est né des nouveaux...
Qu'est-ce que vous appelez un achat anxiogène ?
Un achat anxiogène, par exemple, si vous allez chercher un constructeur de maison individuelle.
Ouais.
Vous voyez, ça c'est un achat très anxiogène.
Ou un médecin.
Voilà. Quand on parle d'un médecin, vous parlez d'agent immobilier. On parle en fait de choses qui peuvent changer le cours de votre vie.
Ou une auto-école.
Une auto-école aussi. Et le choix du mauvais professionnel pourrait effectivement vous amener mal et loin.
Merci infiniment à toutes et à tous pour ce débat. Ambre Franzen, Olivier Guéraud, Virginie Pez et Jean-David Lépineux. Merci aussi à notre restaurateur qui nous a gentiment appelé de Biarritz. Dans un instant, on va se retrouver sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.